Je veux dire, moi j'ai 23 ans, j'ai deux gosses, une femme. Je me dis, mais où c'est qu'on va, quoi? Puis les gens et tout. Je veux dire, faut arrêter, faut la tolérance, quoi. Alors maintenant, je me dis, je t'appelle, ça fait longtemps que je veux appeler. Mais je me dis, là, maintenant, voilà, je vais lui demander, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors voilà, c'était Eric.
Salut Daniel, c'est José de Paris. Je me posais en fait deux questions. J'ai travaillé pendant un an et demi en Afghanistan et notamment pendant un an à Kaboul. Et j'ai eu l'occasion de voir, d'assister à une pendaison malgré moi, puisque je me trouvais là par hasard et ça a été très dur. Mais je me fais également une réflexion. Il y a combien de gens qui sont condamnés au mort et exécutés aux États-Unis chaque année? Et puis je me fais une autre réflexion. Effectivement, je travaillais pour une ONG médicale. Donc j'ai pu constater la difficulté des femmes à accéder à la santé. Mais aux États-Unis, il y a combien de personnes qui, n'ayant pas la sécurité sociale, se voient refuser l'accès aux hôpitaux quand ils sont malades ou en détresse? Donc voilà, je me posais juste la question, où est le bien, où est le mal, et est-ce bien le bien qui lutte contre le mal, ou le mal contre le bien, ou le mal contre le mal? Voilà. Salut Daniel, à bientôt.
Chérie, il y a le téléphone pour les États-Unis à la télé. Ah, il y a l'adresse pour donner de l'argent. Chérie, prends un stylo, chérie, il y a l'adresse. Ah. Celui-là, il marche pas, chérie.
Ça y est, ça passe, là.
Chérie, il marche pas. Oh, merde, c'est passé. Il marche pas, ton stylo. On pourra pas donner. C'est pas faute d'avoir voulu, pourtant, hein.
Ce qui est bien, c'est que vous faites le boulot à notre place. Trois messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis. Celui-là qui est particulièrement réussi. Hein. C'est pas facile à faire avec un téléphone et puis remonter le disque, etc. C'est très malin, bravo. Et puis deux autres messages qui résument tout ce qu'on reçoit sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. C'est des questions. On se pose des questions. C'est une prise de tête assez formidable en ce moment, finalement. Hein. Parce qu'il y a une inquiétude très grande. Il y a un horizon très problématique. Un auditeur dit, et si on était en train de vivre les derniers jours de l'avant-guerre, par exemple? Très inquiétant, mais en même temps, il y a une demande de comprendre, une demande d'apprendre. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle on se retrouve pour la deuxième journée consécutive avec l'équipe du Monde Diplomatique sur autour du numéro qui va sortir vendredi. Mais d'abord, vos messages, 01 56 40 37 37.
Je t'appelle pour te dire que je suis très très fier d'être français. Franchement, on nous a bassiné avec vous êtes américains, mais moi je suis fier d'être français, parce que quand même, au niveau du progrès, au niveau du progrès social surtout, on est très fort. Je trouve que Total, c'est très très bien. Après l'Erica, maintenant, c'est l'origine chimique. Ils ont inventé le plan social par explosion, avec les assurances qui vont rembourser l'usine et l'État qui va se charger de dépolluer le site. Bravo à quand les pollueurs sont vraiment les payeurs. Parce que ça, j'ai encore l'impression que, comme pour l'Erica, ils vont payer au minima. Mais bravo la France, vive les Français, on est très bons. Merci Total, merci messieurs les actionnaires, et je vous souhaite le bonjour.
Ici Armelle de Bretagne. Je voudrais te faire part d'une petite réflexion de ma fille Jeanne, qui a 5 ans. Elle m'a fait énormément rire. Nous écoutions la radio et les mots « Amérique » et « Américain » revenaient sans cesse dans la bouche du journaliste de France Inter. Ma petite Jeanne, du haut de ses 5 ans, me dit de son air malicieux « Maman, moi je sais où se trouve l'Amérique. » Je lui réponds « Ah bon, et c'est où l'Amérique ?» Et Jeanne de me dire « Eh bien, l'Amérique, c'est derrière la Maison Blanche. » Eh oui, Daniel, et si l'Amérique était derrière la Maison Blanche ? Allez, bonne journée.
Bonjour Mermet, c'est Jean-Paul d'Épinay. Ouais, on a beau dire tout ce qu'on voudra, une chose est sûre, c'est que rien ne justifie l'assassinat de 6000 personnes, principalement des salariés. Alors, en tant que syndicaliste, moi je supporte pas ça. Et puis, juste un petit message comme ça, comme disait Ferret, hein, ni Dieu, ni maître. Et puis pour rappeler un peu Bakounine, et si Dieu existait, compte tenu toute la merde qu'il fait, vaudrait mieux s'en débarrasser. Allez, salut, Mermet.
Bah, c'était pour te dire que c'est bien de parler à 5 heures. Faudrait peut-être que tu ailles faire un tour à 20 heures et des poussières sur TF1. Et puis, ouais, donne-nous des nouvelles du sous-commandant, parce qu'ils viennent de nous buter le commandant. Alors, le sous-commandant, à mon avis, donne-nous des nouvelles de lui. Salut.
Bien sûr, nous sommes l'Occident, nous avons une grande part de responsabilité de par les colonisations. Mais maintenant, je pense que certains pays, ça fait quand même 40 ans, 50 ans qu'ils sont indépendants. Alors, bien sûr, il y a toujours le joug des multinationales, on leur pique leur pétrole, on leur pique leur richesse. Mais je pense que quelque part, quand même, il y a un peu d'exagération à vouloir se flageller et à dire que c'est notre faute, notre très grande faute. Alors, l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'ils font de leur argent? Eux, ils s'achètent des yachts, ils construisent des mosquées en Bosnie alors que les écoles manquent. J'avoue que tout ça me laisse sceptique. Et pourtant, je ne suis pas pro-américain, je ne pense pas être vraiment raciste, je suis même sûr de ne pas l'être. Et puis dans les médias, vous n'arrêtez pas de dire qu'on est en train de faire un amalgame. Je suis désolé, dans les médias, au contraire, je trouve qu'on fait bien attention à ne pas le faire. Il ne faut pas oublier non plus que Bush, mais aussi bête qu'il puisse être, n'a quand même été dans une grande mosquée, bien qu'il n'avait pas l'air à l'aise et vraiment naturel, avec ses pieds nus dans ses chaussettes. Mais enfin, il y est allé, parce qu'il est bien conseillé, sûrement. Pour l'instant, les Américains n'ont fait aucune action militaire. Ouais, de toute façon, quelle action militaire avoir? Attaquer l'Afghanistan? Qui? Quoi? Quand? Pourquoi? Eux-mêmes ne savent pas trop. Donc pour l'instant, stand-by, un peu partout.
On va avoir d'autres messages sur le répondeur de la basse ici, mais j'ai deux petits messages qui nous sont parvenus par d'autres biais à vous porter à votre connaissance. Il y a un collectif qui s'appelle Toulouse, qui s'est intitulé Toulouse, Toulouse plus jamais ça, et qui regroupe des associations, des syndicats et des mouvements politiques, et qui appelle à manifester mardi prochain, à Toulouse, pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur la détresse des victimes de l'explosion de l'usine chimique AZF. Il y a la FSU, il y a les Motivés, il y a la LCR, il y a les Verts, il y a les Amis de la Terre, il y a Greenpeace, etc. La manif, c'est à 18h, place du Capitole. C'est aujourd'hui, c'est pas du tout la semaine prochaine. C'est aujourd'hui, à 18h, place du Capitole, à Toulouse. Et puis, le film de Christophe de Pontfilly sur Massoud l'Afghan, fait un tabac aux Trois Luxembourg, il passe aux Trois Luxembourg à Paris, et à cause du succès, il va être maintenant projeté au Petit Balzac, rue Balzac, je crois que c'est dans le 8e. Autre message.
Salut Daniel, salam alaikum, c'est Ahmed de Paris. Je voulais, à travers ton répondeur, pousser un cri de cœur pour dénoncer ce monde malsain, pourri et hypocrite dans lequel nous vivons, et où vivent nos enfants. Excuse-moi, je suis un peu ému, j'ai jamais parlé à la radio. Alors pour lutter contre l'amnésie collective, je voudrais rappeler deux faits. Le premier concerne un certain Bill Clinton, en 1999, qui à la suite de problèmes d'ordre sexuel avec sa femme et une certaine Monica, eh bien ce Clinton était menacé d'une procédure de destitution, impeachment, ça fait beau comme ça, d'une procédure de destitution. C'est alors qu'il rentre, il fait rentrer l'Amérique en guerre pour annuler toute procédure à son encontre, conformément à la Constitution. Le deuxième fait concerne un certain criminel de guerre. Il s'agit d'un certain Ariel Sharon, désigné par la justice de son pays comme premier responsable des massacres de Sabra et Shatila en 82, des milliers de morts civiles, enfin des broutilles, hein, des enfants, des vieillards, des femmes, etc. 18 ans après, le voilà qui récidive avec ses mains souillées de sang. Il va piétiner le troisième lieu saint de l'islam pour provoquer la deuxième intifada. Quelle aubaine! Cette provocation était parfaitement organisée puisqu'elle a eu lieu à environ 5 mois avant les élections en Israël et alors que les pourparlers de paix étaient très très avancés. Donc on arrivait à la paix pratiquement, ce qui ne lui laissait aucune chance évidemment de victoire à son camp, celui des faucons. Quel coup de maître, hein, il a réussi à tout faire capoter et à se faire élire.
Je suis Louis de Vitry. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ton émission d'aujourd'hui et je venais de lire le début des articles très nombreux que le Spiegel d'aujourd'hui consacre aux attentats de New York. Il signale notamment que les Américains ont un choix très sélectif des adversaires qu'ils dénoncent, en particulier l'Irak, où l'implication de Saddam Hussein n'est pas du tout prouvée en ce qui concerne les présumés auteurs de l'attentat, mais laisse dans l'ombre l'Albanie, alors que des adeptes de Bin Laden sont très actifs dans l'Ucheka, et cela de façon tout à fait prouvée. Alors j'aimerais savoir ce que les rédacteurs du Monde diplomatique en pensent. Merci.
Le dos au mur, enfin une bonne nouvelle. Le mal et le bien mettent de l'eau dans leur vin. Du coup, le bien devient moins bien. C'est ennuyeux, mais comme le mal devient moins mal, c'est mieux. Le noir et le blanc prennent un coup de gris, et la nuance en sort grandie. Je salue comme il le mérite, le bien et le mal d'avoir courageusement quitté leurs confortables extrémismes. Si la complexité des situations semble grandir, elle laisse au moins entrevoir des solutions. Au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis avec le Monde diplomatique.
Flight number 2, arriving from New York.
September 11th, 2001. It is not a declared war, but a war just the same. The word President Bush is now using to describe the suicide plane strikes on the World Trade Towers and the Pentagon. And the stakes could not be higher. A White House spokesman says intended targets included the White House and Air Force One.
Le bien contre le mal, la liberté contre la barbarie. Nous allons enfumer les terroristes dans leur terrier. Croisade contre djihad, on se demande s'il faut, en allant dans ces régions, Afghanistan, Pakistan, emporter son cerveau. Une moelle épinière devrait suffire. On se demande si nous ne sommes pas en train de renvoyer au monde musulman l'image que les intégristes eux-mêmes donnent du monde occidental. D'autres questions se posent que celles-ci, de très nombreuses questions qui essayent de sortir de cet affrontement intégrisme contre intégrisme. Nous passons cette heure avec l'équipe du Monde diplomatique sur le numéro qui va sortir à la fin de cette semaine, vendredi, une autre manière de voir.
Good evening again from CBS News headquarters in New York. Dan Rather with a special edition of the CBS Evening News, continuing coverage of the attack on America.
Agora nós vamos cantar um trava-língua pro pessoal ver. Quem for mole se arrebenta, viu, poeta?
Tá o assunto do jeito que você quiser, viu?
E correu por atrás.
Tenha cuidado, cantor, não diga palavra errada. Tenha cuidado, cantor,
eu não digo palavra errada.
Tenha cuidado, cantor,
eu não digo palavra errada.
Cara com cara é careta, careta com cara é cara. Vara com vara é vareta, vareta com vara é vara. Mala com mala é maleta, maleta com mala é mala. Casa tem uma velha que tá com a canela seca. Tira sebo da bochecha, bota dentro da buchada. Velha da bochecha grande, moça da bochecha magra. Ajunte a bochecha pra fazer a panelada. Panela, bochecha, bucha, bucha, bochecha e buchada. E tenha cuidado, cantor, não diga palavra.
Tome cuidado, cantor,
e não diga palavra.
Eu vou cantar de improviso, sou ouro que não mareia. Você hoje leva a peia, me responsabilizo. Peneiro, machuque e piso, eu canto na escala. Tem minha bengala, já cantei lá na gazeta. Mala com mala é maleta, maleta com mala é mala. Taleta com tala é tala, tala com tala é taleta. Casa tem uma velha.
A stunning and cowardly strike on the United States. Terrorists and mighty skyscrapers crumbling to the ground. Many innocent people are dead. The president vows the killers will pay.
Je suis sûr qu'actuellement, peut-être pas en Palestine, mais en Afrique, dans certaines parties du monde, peut-être en Indonésie, les enfants qui naissent, il y a pas mal de chances pour que pas mal d'enfants qui naissent ces jours-ci soient baptisés Bin Laden. On a vu ça en 91, au moment de Oussama. Oui. Donc ça veut, enfin, ce que vous suggérez l'un et l'autre, c'est qu'en fait, le tiers monde, pour aller vite, n'est pas mécontent de ce qui se passe. Est-ce que pour autant, l'organisation de Bin Laden et de ses réseaux est portée par le tiers monde et représente le tiers monde et se veut le héros des hérités de toute la planète. Dominique Vidal.
Non, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que la recherche et l'identification de l'adversaire, du nouvel adversaire qui va permettre de restructurer l'ensemble des alliances autour des États-Unis, n'est pas une affaire simple. Parce que dire terrorisme, c'est une chose, dire islamisme, c'en est une autre, et donner à penser que c'est l'islam, c'est encore autre chose. Je crois malheureusement qu'il faut encore et toujours répéter ces problèmes de terminologie ne sont pas des affaires de spécialistes, mais des affaires extrêmement graves, parce qu'elles peuvent avoir des conséquences là-bas et chez nous. Quand on parle de l'islam, on parle de la première religion au monde, qui a aujourd'hui 1,2 milliard de fidèles, qui arrive depuis cette année, 2001, devant la religion catholique. Donc on ne peut pas faire de l'islam un épouvantail, sinon on se dresse contre la première religion au monde. Quand on parle d'islamisme, on a en ce moment la tentation de faire un trait d'égalité entre islam et islamisme. L'islamisme, c'est un courant politique. Un courant politique qui vise, et depuis longtemps, qui n'a pas attendu que les derniers événements se développent, qui vise à créer des États fondés sur le Coran, la charia, c'est-à-dire la loi musulmane. On a vu ce courant islamiste se développer. On en a vu par exemple la victoire de la révolution iranienne. On a vu aussi l'islamisme se développer comme base même de l'Arabie Saoudite, de l'État qui est le plus proche et que les États-Unis veulent le plus proche d'eux aujourd'hui. On l'a vu au Soudan avec une association des islamistes au pouvoir. Donc ce courant existe, il s'est développé et puis il est plutôt aujourd'hui sur le reflux. Il est là où les islamistes ont été au pouvoir, je le dis, il faudrait aussi citer l'Afghanistan, et on pense que le reflux pourrait être rapide dans la période qui va suivre, évidemment, et brutal. Mais il est aussi dans un certain nombre de pays où les islamistes ont été combattus, souvent d'une manière extrêmement brutale. On pense à l'Algérie, on pense à la Tunisie, on pense à l'Égypte, etc. Donc il y a des situations extrêmement diverses, on peut pas simplifier. Quant au terrorisme, si on veut, pour répondre à la question que vous avez posée, chiffrer, moi je ne donnerai pas de chiffres, mais je pense vraiment que les réseaux terroristes représentent une infime fraction du mouvement islamiste qui a basculé dans la violence et dans le terrorisme. On ne peut absolument pas établir de pont entre la masse, ni des islamistes, et a fortiori des musulmans, et les phénomènes terroristes. Cela dit, ce que je voulais dire, c'est que dans la construction de l'ennemi et son identification et les alliances, la direction américaine est confrontée à une contradiction qui, à mon avis, est extrêmement difficile à résoudre. La preuve, d'ailleurs, c'est cette toute petite anecdote que je trouve extraordinaire. Lorsqu'on a vu le président George Bush, l'actuel, junior, s'excuser publiquement d'avoir utilisé le terme de croisade. Pourquoi s'est-il excusé? Parce que pour, sinon 1,2 milliard de musulmans, en tout cas une bonne partie d'entre eux, le terme de croisade rappelle des souvenirs qui sont des souvenirs particulièrement épouvantables. Quand nous allions, quand ils allaient, eux, reconquérir la Terre Sainte en semant le sang et la terreur autour d'eux, d'ailleurs pas seulement en Terre Sainte, mais surtout le chemin. Beaucoup des premiers pogroms antisémites sont des pogroms de cette époque, il faut le savoir, sont liés aux croisades. Donc il y a eu ces excuses. Ces excuses, elles veulent dire que pour la direction américaine, ça n'est pas simple aujourd'hui de manipuler ces termes et de les manipuler en se laissant déraper. Alors bien sûr, ça plaît sans doute dans telle ou telle ville américaine ou même européenne de parler de croisades. Là-bas, pas. Donc il faut faire attention. Et je termine en disant que la meilleure preuve de cette contradiction très difficile auxquelles les États-Unis sont confrontés dans la construction de cette coalition antiterroriste, c'est la situation en Palestine. Monsieur Ariel Sharon a cru pendant quelques jours qu'il avait le feu vert, qu'il pouvait massacrer. L'armée israélienne est rentrée dans les villes autonomes. On a tué une trentaine de Palestiniens en une semaine. Ça s'était pas vu depuis très longtemps.
Notamment à Jenin, oui.
Notamment à Jenin, mais aussi dans beaucoup d'autres villes. 5 villes ont été l'objet de reconquêtes temporaires, en tout cas. Monsieur Sharon disait « Chacun son Ben Laden, le nôtre c'est Arafat ». Son ministre de la Défense disait « Nous avons tué, c'était à mi-chemin, à mi-parcours, 14 Palestiniens sans que le monde ne pipe un mot, c'est une catastrophe pour Arafat ». On voit le cynisme de la chose. Il a bien fallu que aussi bien M. Sharon que M. Ben Eliezer, son ministre travailliste de la Défense, reviennent à la raison et comprennent qu'il fallait arrêter cette politique provocatrice, retirer l'armée des territoires, aller vers une reprise des négociations, même si elle n'a toujours pas eu lieu. Pour l'instant, on attend encore la rencontre entre Monsieur Pérez et Monsieur Arafat, ce qui pose évidemment un problème même de responsabilité de la part de la direction israélienne. Mais en tout cas, les États-Unis, en quelques jours, ont contraint leurs alliés privilégiés dans la région, Israël, à une volte-face rapide, ce qui prouve bien qu'il y a problème sur le fond, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre d'un côté s'allier les pays musulmans, les pays de la région, et les pays arabes en particulier, et de l'autre côté, continuer à soutenir, comme c'est le cas depuis des mois, d'une manière inconditionnelle, la répression israélienne dans les territoires. Donc on est là dans des critères de construction d'une alliance qui sont extrêmement difficiles.
Les auteurs de cet attentat, l'attentat du World Trade Center et de Washington, est-ce que pour autant ceux qu'on suppose être les auteurs et les organisateurs de ces attentats se battent-ils pour la noble cause des Palestiniens?
Certainement pas. Ils se battent pour l'autre cause. Je veux dire, c'est comme l'a dit Ignacio tout à l'heure, on ne peut pas imaginer de meilleure occasion pour les États-Unis de réembrigader leur monde, y compris le monde arabo-musulman proche d'eux, les régimes proches d'eux, que ce type d'attentat monstrueux, évidemment, évidemment. D'ailleurs, je vous le signale parce que personne ne l'a remarqué, à ma connaissance en tout cas, je suis de près les médias, et de moins près que Serge, parce que Serge le fait vraiment avec caractère systématique, moi pas, mais je suis, et je peux dire que je n'ai vu nulle part qu'on ait vendu à Ramallah, ou à Gaza, ou ailleurs, des t-shirts à l'effigie d'Osama Ben Laden. Je ne crois pas, rien. C'est significatif.
Français et les falas ou des manques qui nous sont bien, usuriers et trahidou que nous nous siècles también, permanti en ganar, le monde est en tourba, que y a pas de religion, que ça c'est pas ça les sons, que y a pas de religion, que ça c'est pas ça les sons.
Dédicacé à tous les croyants, et quelle que soit leur religion, aux humains des 5 continents, hommes, femmes de toute nation, à ceux pleins de bons sentiments qui ont vraiment la compassion, à cela on dit simplement qu'il faut faire très attention, le monde est plein de charlatans. Tous attirés par le pognon, ils savent manipuler les gens, en faire de la chair à canon. Tout en va mourir en criant, eux ils empochent les millions. Au milieu de l'armée du sang, crois-tu toujours avoir raison?
Ça se qu'en devait la grande oudelle, et qu'elle a mal à même vendre. Une fois qu'on va tout qu'elle ou laisse à l'apparaît, l'amour qu'elle y s'abattra d'une 4 ans des fiela. Ça rendit une homme et son monde et des moyens pas pour. Ça rendit une homme et son monde et des moyens pas pour.
Les millénaristes, moi ça m'attriste. Les intégristes, moi ça m'attriste. Fondamentalistes, moi ça m'attriste. Traditionnalistes, moi ça m'attriste. On ne discute pas ma foi que quelqu'un ressente la voix. Mais ça ne lui donne sur les autres aucune espèce de droit. Tu es ce que tu es, quelque part je suis comme toi. Peu importe où je suis né, peu importe en quoi je crois.
Je uvedaj kde tu sú, zemie duraz nu sú ste. Galira stili pekadu de tu lune de tu men, a kita zidu peka ke li din cadena. E fez nu vegai pe dume me vego confesiu, e fez nu vegai pe dume me vego confesiu.
Les millénaristes, moi ça m'attriste. Les intégristes, moi ça m'attriste. Fondamentalistes, moi ça m'attriste. Traditionnalistes. Les millénaristes, moi ça m'attriste. Les intégristes, moi ça m'attriste. Fondamentalistes, moi ça m'attriste.
Une minute de silence et 59 minutes de silence pour le reste. C'est un ami brésilien qui s'exprime ainsi et qui dit oui, bien sûr, il faut faire une minute de silence pour les victimes des attentats aux États-Unis, mais il faudrait faire 59 autres minutes de silence pour toutes les autres victimes. Et il fait la liste, une liste précise du temps qu'il faudrait consacrer, combien de silence pour le Vietnam, combien de silence pour l'Amérique latine, combien de silence pour les enfants d'Irak, etc. On voit bien que si les États, les chefs d'État et de gouvernement font allégeance aux États-Unis, à l'administration américaine actuellement, les peuples, c'est peut-être autre chose. Les opinions, c'est probablement autre chose. Si on s'aventurait à faire un sondage d'opinion mondiale, on en parlait hier, il n'est pas bien sûr que on verrait partout la même compassion, la même consternation que celle que nous avons pu observer, que nous observons chez nous. On est avec le monde diplomatique, avec les journalistes du monde diplomatique, jusqu'à 18h. Alors Maurice Lemoine, on continue avec le numéro du Monde Diplomatique qui sort ce vendredi. On a les yeux braqués sur les États-Unis, sur l'Europe, sur l'Occident, sur l'Asie centrale, sur le Proche et le Moyen-Orient, et comme d'habitude, pas tellement sur l'Amérique latine. Vous qui observez ce continent, est-ce que vous avez une idée des réactions?
Bah, écoutez, je vais rebondir sur ce que vient de dire Serge, parce qu'il y a une question qui revient dans les messages qu'on reçoit, dans les conversations qu'on a, c'est où étiez-vous le 11 septembre? Mais le 11 septembre 1973, 28e anniversaire du coup d'État contre Salvador Allende. Et on le sent bien, je veux dire, le discours est le même, il y a à la fois une horreur devant la violence de l'acte, il y a à la fois un salut aux victimes, innocente, et en même temps il y a ce discours disant mais dit-on nos amis américains, où étiez-vous au moment des coups d'État contre Pinochet, on sait bien que vous n'étiez pas dans le bon camp, où étiez-vous lors de l'invasion de Panama qu'on a vite oublié, elle a fait 4000 morts, entre 3000 et 4000 morts, pour arrêter un trafiquant, Manuel Antonio Noriega. Hein. Donc il y a ce réflexe. Et puis il y a évidemment, y compris le rôle des États-Unis aujourd'hui qui est mis en cause. Si vous prenez le cas de la Colombie, puisqu'on parle de la Colombie dans ce numéro, les deux principales organisations de guérilla de la Colombie, les FARC et le ELN, ont condamné l'attentat de New York, parce qu'elles le considèrent comme du terrorisme, et en même temps, elles tiennent le discours que tiennent tous les latinos, où étiez-vous le 13 septembre 1960, le 11 septembre 1973, elles le tiennent également. La Colombie est un cas très intéressant parce que, vous l'avez sans doute entendu, les responsables américains ou des responsables américains ont déclaré que la guerre allait être longue et que pendant 5 ans ou 10 ans, on allait poursuivre tous les terroristes. Il va y avoir à mener une réflexion sur qu'est-ce qu'un terroriste. Est-ce que, par exemple, les deux mouvements d'opposition armée colombiens, donc les forces armées révolutionnaires de Colombie et l'armée de libération nationale, sont des groupes terroristes? Ils figurent effectivement sur la liste établie par les États-Unis des groupements terroristes. En même temps, quand on regarde la réalité colombienne, moi j'appellerais ça des mouvements d'opposition armée, qui mène une guerre, qui mène une guerre dure, qui mène une guerre brutale, y compris parfois avec des méthodes contestables, mais ce sont des mouvements d'opposition armée. Fait très intéressant, les États-Unis viennent d'intégrer il y a deux semaines les paramilitaires, les autodéfenses unies de Colombie, dans la liste des mouvements terroristes. Alors, on peut déjà s'étonner qu'il aurait fallu 25 ans pour les mettre sur cette liste, dans la mesure où, depuis 1985, les paramilitaires commettent 75% des violations des droits de l'homme en Colombie, mais y compris, on peut même ajouter que ce terme de terroriste n'est pas approprié. Les paramilitaires ne sont pas des terroristes. Les paramilitaires sont une excroissance de l'armée colombienne. Et le terme terroriste permet de masquer la véritable nature du problème. À la fois, on masque le caractère d'opposition armée des guérillas et on masque la responsabilité de l'État colombien dans la naissance, le développement et l'excroissance de ce mouvement terroriste.
Ça fait des années que le monde diplomatique met en cause, on va dire, la mondialisation, ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation libérale, l'économie de marché, etc. Quel lien vous voyez entre ces politiques économiques appliquées à la planète et ce qui s'est passé le 11 septembre? Est-ce que vous faites un lien?
On ne peut pas faire un lien de cause à effet. Je crois que, d'ailleurs, cet événement, on peut difficilement, nous avons ici parlé d'un certain nombre de causes. Hein, la Palestine, la guerre du Golfe, les frustrations au sein, disons, du monde arabo-musulman, etc. Mais tout ça sont des causes vastes, importantes. Et il n'y a pas, pour l'instant en tout cas, d'ailleurs, il faut rappeler que ces actes n'ont pas été jusqu'à présent revendiqués. Et que c'est même un problème. Parce que, je veux dire, on pouvait imaginer que des attentats de cette démesure pouvait donner lieu à une revendication très précise. Voilà pourquoi nous faisons cela, c'est parce que vous-même, vous avez fait ceci ou cela. C'est-à-dire, c'est les réseaux auteurs de cet attentat n'ont pas donné de raison précise, peut-être même parce qu'ils cherchent précisément à ce que la cause soit très diffuse et très large. Ils veulent que l'interprétation soit « c'est le monde musulman qui nous attaque » ou « c'est le monde arabe qui nous attaque ». Cherchant précisément d'emblée une riposte de type guerre de civilisation. Donc il ne faut pas tomber dans le piège.
Je crois que ça y est, on va vers ce piège. Ce qui sort des éditoriaux dans toute une presse a tendance à expliquer les choses par cette guerre de civilisation.
Comme souvent, beaucoup de journalistes sont partis en guerre avant les soldats, hein, avant les militaires. Mais on ne peut pas, évidemment, négliger le fait que cet événement a lieu au moment où la dimension principale de ce qui se passe dans le monde, c'est quand même la mondialisation, effectivement. Hein, et que on parle de nouvelle ère, etc., mais c'est sur un plan, stratégique ou géostratégique. Mais la dimension principale de la mondialisation ne sera pas changée. Ou alors il faudrait que, précisément, on nous explique que la nouvelle ère, c'est que la mondialisation vient de se terminer et qu'on entre maintenant dans une ère tout à fait différente. Peut-être que les premières décisions, d'ailleurs, en matière économique des Américains montrent un infléchissement, peut-être que le néolibéralisme va entrer en crise et qu'un néo-keynésianisme va commencer, avec notamment une participation plus importante de l'État dans la relance de l'économie. Peut-être que, par exemple, les paradis fiscaux, qui sont des paradis utilisés notamment par les réseaux terroristes, eh bien peut-être qu'enfin les paradis fiscaux vont être supprimés. Voilà une mesure démocratique qui irait dans le sens d'un arrêt de la mondialisation sauvage.
Vous n'êtes pas en train de pêcher par optimisme, là?
Non, j'essaie de comprendre ou de déduire quelles sont les conséquences qui peuvent surgir de ce changement d'air. Et si on tire toutes les conséquences sur ce qui s'est passé, alors ça voudrait dire effectivement qu'on ne peut pas accepter un monde quand même divisé en deux, fracturé socialement, etc., en deux. Si on veut mettre effectivement un terme à toutes les injustices dans le monde, le chantier est vaste, hein, et les Américains ont beaucoup de ressources, mais il faudrait surtout faire preuve de beaucoup de volonté politique, régler tous les problèmes dont on a parlé, dont certains sont effectivement urgents, comme ceux du Proche-Orient. Mais il y a d'autres problèmes, le problème de la pauvreté, le problème de l'analphabétisme, le problème de la marginalisation des femmes, le problème du travail des enfants.
Mais encore une fois, Ignacio, Encore une fois, Ignacio Rabonnet, les auteurs supposés, les instigateurs supposés de ces attentats ne se réclament pas de toutes ces causes.
Non, bien entendu, et c'est ce que je dis, il faut pas ces auteurs, je crois que il faut tout de même condamner non seulement cet acte en raison des victimes civiles innocentes que cela a produit, mais aussi parce que ces auteurs par leur acte là relancent ou pourraient relancer une guerre idéologique qui peut être très dangereuse pour l'ensemble des citoyens. Mais d'un autre côté, on peut se dire aussi, vous savez, ce proverbe chinois que nous citons souvent et qui est le coup de massue qui rend lucide. Il y a des coups de massue qui endorment, bien entendu, hein, qui terrassent, mais il y a des coups de massue qui réveillent. Et ce coup de massue est monstrueux, mais si cela pouvait servir à réveiller non seulement, je dirais, l'Amérique, mais tous les pays qui jusqu'à présent participaient aveuglément à la mondialisation, pour se dire que quand même ce monde est un monde de misère et de souffrance, et d'injustice et d'inégalité, et que en essayant, en tentant de les résoudre, on va construire un monde meilleur, un monde peut-être moins efficace économiquement pour certains, mais un monde meilleur, eh bien, on se dirait que, Dominique le disait tout à l'heure, finalement, d'un mal peut naître un bien.
Plus les heures passent et plus on s'aperçoit que les services secrets américains ont été piégés ces dernières années. Leur priorité, c'était l'économie et les secrets industriels. C'était plus rentable, mais aujourd'hui, on réalise que c'était une erreur. Jacques Imbert et Stéphanie Rouquier.
La CIA, c'est 100 000 agents. À ses côtés, la NSA, l'Agence de sécurité nationale, qui dispose d'un budget de 4 milliards de dollars. Pourtant, à eux deux, ils n'ont rien vu venir. Quant au FBI et aux services secrets des trois armées, ils n'ont rien détecté non plus. Problème, depuis quelques années, les Américains ont joué le tout électronique. Le réseau Echelon espionne la planète entière avec des moyens ultra sophistiqués. L'objectif, c'est l'espionnage industriel dans la grande guerre économique mondiale.
Des armes, des chouettes, des brillantes, des qu'il faut nettoyer souvent pour le plaisir, et qu'il faut caresser comme pour le plaisir l'autre, celui qui fait rêver les communiantes. Des armes bleues comme la terre, dès qu'il faut se garder au chaud au fond de l'âme, dans les yeux, dans le cœur, dans les bras d'une femme, qu'on garde au fond de soi comme on garde un mystère. Des armes au secret des jours, sous l'herbe, dans le ciel et puis dans l'écriture, dès qu'il vous font rêver très tard dans les lectures, et qui mettent la poésie dans les discours. Des armes, des armes, des armes, des poètes de service à la gâchette, pour mettre le feu aux dernières cigarettes, au bout d'un verre français. Brillant comme une lampe.
Noir Désir qui interprète Léo Ferré. On est avec le monde diplomatique, l'équipe du monde diplomatique, autour du numéro qui va paraître vendredi prochain.
On peut l'interpréter comme la première bataille des pauvres contre les riches. On dit souvent dans les livres de science-fiction, il arrivera un moment où l'océan des pauvres déferlera sur le monde riche, un peu comme les barbares avaient déferlé sur l'Empire romain. Dans une certaine mesure, c'est un peu une bataille qui se rattache à cette lecture-là. Et donc, par conséquent, ça devrait quand même ramener à ce qui vient de se passer, si on dit que c'est important, etc., devrait conduire à réfléchir sur l'ensemble des paramètres qui sont en jeu aujourd'hui, dans le cadre non seulement de la mondialisation, mais du monde tel qu'il est.
Dominique Vidal.
Je crois qu'il y a une autre raison qu'on pourrait invoquer, peut-être, Ignacio, c'est de dire qu'au fond, ce qui se passe amène à maturité une réflexion qui s'est développée durant les années 90, à la fin du siècle, sur l'impossibilité de gérer le monde avec une hyperpuissance unique, travaillant exclusivement de manière unilatérale, bénéficiant de rapports de force économiques, militaires, politiques absolument écrasants. Eh bien, malgré tous ces moyens, ça ne fonctionne pas. Et je crois qu'il y a là un vrai terrain de réflexion. Je ne dis pas que la direction américaine actuelle est capable de mener cette réflexion à bout, mais c'est une réflexion qui, de toute façon, est posée. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire cette coïncidence. 3 jours avant les attentats, c'était la fin de la conférence de Durban. Eh bien, à Durban, les États-Unis, qui avaient dû se retirer de la conférence par solidarité avec Israël, et avec Israël, avaient bien constaté l'extraordinaire isolement qui était le leur, non seulement, comme on l'a dit, dans les opinions du Sud, mais parmi les États du Sud. Parce qu'à la conférence, il n'y avait pas seulement des ONG, il y avait les États. Or, ils se sont retrouvés en accusation sur une série de dossiers. Il y a dans tout cela quand même matière à réflexion. Alors peut-être qu'on est optimiste en pensant que tel ou tel va réfléchir, mais il y a, qu'on le veuille ou non, des questions qui doivent être pesées, sous-pesées et tranchées à un moment donné.
Ignacio Ramonet.
Oui, dans le prolongement de ce que vient de dire Dominique, on a pu constater que après la chute du mur de Berlin, la disparition de l'Union soviétique, finalement, les grandes puissances, pas seulement les États-Unis, mais les grandes puissances avaient tendance à dire, bon, maintenant nous n'avons plus un ennemi général, donc les conflits qui se produisent dans le monde sont des conflits finalement qu'il faudra recouvrir d'une sorte de cloche de verre et qui vont pourrir, on va s'en désintéresser. Et bien sûr, on s'est pas désintéressé de l'invasion du Koweït par l'Irak parce qu'il y avait la question du pétrole. On s'est pas désintéressé des Balkans parce que c'est à la frontière de l'Europe ou au sein même de l'Europe, frontière de l'Union européenne. Mais tout ce qui se passe ailleurs en Somalie, ce qui se passe en Indonésie, ce qui se passe dans le cœur de l'Afrique, ce qui se passe au fond de l'Amérique latine, on a pu croire, certains pays ont pu croire, que finalement il suffisait d'oublier ces conflits pour que les répercussions n'atteignent pas les puissances dominantes ou les pôles dominants de la planète. Alors on constate que c'était une politique aveugle et que quand on est une hyperpuissance, eh bien il y a une responsabilité qui est effectivement de participer avec d'autres, surtout que l'un des traits de cette hyperpuissance a été de marginaliser les Nations Unies, voire de tout faire pour que les Nations Unies n'aient plus le rôle qu'elles avaient eu pendant la période de la guerre froide. Eh bien, on découvre que finalement, les pays ont beau être petits, les revendications ont beau être marginales ou apparemment marginales, tout ceci fait partie du concert international et on a intérêt à avoir des structures de règlement des conflits aussi importantes que les Nations Unies qu'il conviendrait à l'occasion de cette crise de relancer.
Serge Limy.
Je voudrais juste rappeler que pendant toute cette période consécutive à la chute du mur de Berlin et à cette espèce d'euphorie sur la fin de l'histoire, le traitement de l'international dans la presse a complètement fondu. Il a été divisé par 3. Dans les grandes chaînes de télévision américaines, divisé par 5 dans les grands titres de la presse américaine, à tel point que ces dernières années, si vous prenez les grands journaux américains, et pas seulement ceux dont on parle toujours, le New York Times, le Washington Post, mais l'ensemble des grands journaux américains, le traitement de l'international n'occupait que 2% de la place dans un journal. Et maintenant, vous avez des millions d'Américains, mais la même chose se produit en France, en Italie, en Allemagne, qui découvrent qu'effectivement, le monde existe, même si on a le sentiment que le monde ne compte pas, parce que un jour ou l'autre, il finira par compter.
Ça vaut à l'intérieur de nos propres sociétés. Il y a toute une partie de nos sociétés, mettons 10% en gros, la population de la France, par exemple, qui est devenue invisible. Hein, on apprend à travers des chiffres que 10% de nos compatriotes vivent en dessous du seuil de pauvreté. On ne sait pas très bien quelle tête ils ont, où ils sont. Enfin, ils apparaissent à travers des chiffres. Ce qui vaut pour un pays comme le nôtre, qui est un pays cultivé, riche et bien informé, vaut pour toute la planète.
Absolument. D'ailleurs, 10% de nos compatriotes, c'est exactement la même proportion que la proportion des Français qui ont des actions en bourse. Mais cela, vous avez remarqué qu'on leur consacre des émissions régulières et qu'on leur, en quelque sorte, livre le pouls des marchés financiers en permanence. Alors là, effectivement...
Et immédiatement, d'ailleurs, une des premières informations après avoir considéré que c'était le FPLP qui était l'auteur de l'attentat, on s'est inquiété du chute des bourses. C'était les deux premières informations qui sont apparues.
Alors maintenant, il faut envoyer des correspondants, des journalistes au Soudan, en Afghanistan, au Pakistan, pays dont on avait oublié l'existence.
Travaille l'usine, un petit café, un petit féroce après la guadine. Sorti des au soleil, déjà au moins rencontré machin de ma vie qui dit moi petit garçon. Mais là, on va bourrer qu'on s'attend. Petit bâti belge, mon cap, moi, bah, écoute, mais mon cap, filez tout de suite, mon cuisine, mon cap. Des paroles en paroles et des m'habilles en m'habilles. Nous voyons de l'absinthe et peut-être même en rôti. Sans même plus loin, soleil déjà la roman. Rencontré Julien Péchec qui dit moi, petit garçon. Mais là, on va pour ça. Tout le monde gamin joue, on va pour lui. Hein? On va aller voir là. Tellement pressé qu'il m'a dit à peine bonjour. Un mot maintenant, un mot et après nous quittez-nous. Vive l'usine, soleil déjà midi, c'est pour ta poubelle qui dit moi, petit garçon. Mais là, on va pour ça. Ou pas arriver, il midi. Et où ça, pour pas fermer l'usine là, de midi à 2h. Faut qu'il tout pour venir vers eux. Putain, t'as ouvert. En attendant l'ouverture de l'usine à 2h. Anti-sébine ou roulé terminé vers 7h. Entre l'usine, soleil déjà bas. Encontré maître, réponds-moi pour aujourd'hui, c'est trop tard. Mais pour demain, c'est trop tôt.
Mes amis, mes amis, mes amis.
En va ni chance, hein. Tout couille, ma couille, hein. Ah, c'est pas joli. Et la morale de tout ça, c'est qu'être dans le pays, hein. Si l'envie travaille, si on prend nous, on joue par hasard. Toujours ni un pile, mon nous les copains pour empêcher, on fait affaire. Alors c'est pas la peine, vaut mieux rester caillou. Yeah. 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 Oh. Vaut mieux aller chanter plutôt. Si moi des amours étaient passés, je me mets là, je t'attendre. Et dans la plage, là, pas un bon petit bain. Moi j'ai un bon petit blaf, je m'en couille des travails là et tout, pas de mourir, pays t'as pas. Mais c'est ça. Bon, au revoir messieurs, au revoir messieurs.
Voilà, merci à l'équipe du Monde diplomatique. Ignacio Ramonet, Serge Halimi, Maurice Lemoine, Alain Grèche et Dominique Vidal. Le Monde diplomatique paraîtra vendredi. Il me reste quelques instants pour vous parler, c'est bien ça d'avoir un peu de temps, pour vous parler de bouquins qu'on reçoit. Celui-là m'a l'air vraiment formidable, je l'ai feuilleté, je ne l'ai pas lu complètement. Ça s'appelle Chronique du bidonville, c'est aux éditions du Seuil, avec une préface de François Maspero, et c'est un texte de Monique Hervault. Et c'est remarquable, c'est merveilleux, c'est un journal tenu par cette femme, Monique Hervault, qui a vécu à la fin des années 50, pendant 3 ans, dans un bidonville à Nanterre, dans ces bidonvilles où vivaient, croupissaient les Algériens. Il y avait comme ça, autour de Paris, à Champigny ou ailleurs, des bidonvilles
où les à Champigny c'était les Portugais, où voilà, où des gens vivaient et survivaient, et elle a vécu dans ce bidonville de Nanterre. Et elle raconte le 17 octobre 61 de l'intérieur, depuis ce bidonville. Et à l'époque, là on dit, ah c'est formidable, tout d'un coup il y a un intérêt pour le vaste monde à la suite de ce qui vient de se passer aux États-Unis. À l'époque c'était la même chose, il y avait une indifférence totale pour ces bidonvilles, je dis parce que je me souviens, j'ai vécu ça, j'ai connu ces bidonvilles, et il y avait de la part des Parisiens, des autres banlieusards, une indifférence totale. Et François Maspero, dans la préface, une préface absolument superbe à ce bouquin, raconte une chose, donc c'est pas une anecdote, que raconte Georges Semprin quelques jours après la libération du camp de Buchenwald. Il est sorti du camp, il est entré dans la maison d'un village voisin pour constater que depuis les fenêtres de la maison, eh bien les habitants, des gens tout à fait paisibles, avaient une vue imprenable sur le camp. Et ils vivaient là depuis toujours sans savoir ce qui se passait en face, sans vouloir savoir, sans se poser de questions, comme à des années-lumière. Ça, c'est un élément quand même très très fort. Et puis, il y a une conclusion à cette préface de François Maspero. Il dit qu'à l'époque, lui, l'éditeur, était un homme engagé, qui militait, qui avait des contacts avec le FLN, et qui pensait que par l'action politique, on pouvait changer les choses et les faire ressembler à ce qu'il considérait comme quelque chose qui aurait ressemblé à de l'humanité. Mais dit-il, c'est avec des gens modestes comme Monique Hervault qui allait dans ces bidonvilles simplement pour partager la vie avec les gens, sans se prendre pour des militants, sans être lié à un mouvement ou à un parti quelconque, qu'on a trouvé, qu'on peut trouver de durables raisons de ne pas désespérer. C'est un livre formidable. Et puis d'autres livres, il me reste un peu de temps. Alors ça, c'est intéressant, c'est dans la collection textuelle Seattle, Porto Alegre, Gênes, Mondialisation capitaliste et domination impériale. Un certain nombre d'observateurs d'Intello se penchent sur la mondialisation et ce qu'on appelle l'antimondialisation. Alors on va voir si ces événements récents infléchissent très probablement et modifient cet aspect des, on va dire, des luttes. Et un autre livre encore, Jean-Luc Enaudi, qui publie toujours en vue du 40e anniversaire du 17 octobre 61, octobre 1961, un massacre à Paris, chez Fayard. Et ça, c'est intéressant parce que c'est 10 ans de travail. Enfin, c'est même plus de 10 ans de travail, puisqu'en 91, Jean-Luc Enaudi avait sorti La bataille de Paris, qui était le livre qui allait faire vraiment éclater la vérité et l'intérêt pour le 17 octobre 61. Et en 10 ans, il a accumulé des témoignages, de nouvelles compétences, et voilà ce qui constitue la matière de ce livre. Voilà, ce montage de ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui, c'était Guy Vanctil, technique Sandrine Laurent et Christophe Goudin, assistante Joël Levert, assistant Antoine Dabrowski et Christophe Imbert, c'est lui qui s'occupe des messages, il a beaucoup de boulot parce que vous êtes très nombreux à laisser des messages sur le répondeur de la base CIJSU au 01 56 40 37 37, le fax 01 56 40 41 07, l'email c'est daniel.mermet@radiofrance.com, et c'est Bruno Carpentier et Antoine Chao qui ont réaliser cette émission modeste et géniale.